Mardi 29 juin 2010. Sans frapper au carreau. Deux jours qu'il me parle à peine, qu'il s'enferme dans la roulotte, qu'il ne partage plus nos repas. Anna Nina est un peu perdue. Elle a peur de lui faire de la peine si elle passe du temps avec Gustave et moi, et elle regrette de ne plus pouvoir le faire sereinement. Nous profitons des trajets à l'école pour parler. Je lui explique comme je peux la contrariété de son père, du moins ce que j'en comprends. Il n'avait pas prévu tout cela. Il se retrouve au pied du mur. Il a l'impression que sa fille lui échappe, qu'elle l'aime moins qu'avant. Il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, de leur vie.
Mais je l'aime toujours aussi fort, sauf que ce serait plus simple qu'on reste ici.
Pour toi, mais pas pour lui.
Il n'aurait plus à réfléchir à où s'arrêter pour que les chevaux aient à manger, ni à trouver un lavomatique pour nos habits, ni une piscine ou prendre une douche de temps en temps, ni à comment m'apprendre ci ou ça.
Il est un peu bousculé, il a besoin de lenteur, ton papa, tu sais.
Mais la vie passe trop vite, il faut en profiter, faire plein de choses, sinon c'est perdu.
Laisse-lui du temps. Cette discussion, c'était en rentrant de l'école. En arrivant, Anna Nina a couru jusqu'à la roulotte qu'il repeignait. Elle a passé deux bonnes heures avec lui avant de venir prendre sa douche, de dîner avec moi et de se coucher épuisée par la sortie scolaire au champ du feu, à crapahuter dans la forêt à la recherche de toutes sortes de feuilles, écorces, pommes de pin et glands. Elle connaît plus d'essences d'arbres que moi. C'est très impressionnant. Je ne supporte pas les conflits, encore moins quand c'est sous mon toit. Même s'il a choisi de ne plus le partager. C'est la même cour, le même lieu dit et la même gamine prise entre deux feux. Après ma douche, je vérifie que la petite est bien endormie en enjambant Croquette qui lève à peine une paupière à mon passage. Tout est calme. Sauf moi. Je prends mon courage à deux mains. Dans l'une, le besoin d'apaiser les tensions, dans l'autre, un désir à assouvir. Je ne sais pas si j'aime cet homme, mais j'aime quand il me fait l'amour. J'ai des amies qui ont un rapport amoureux semestriel et qui s'en contentent largement alors qu'elles ont un homme sous leur couette, alors que moi, j'aimerais en profiter quotidiennement et je n'en ai pas le loisir. C'est drôle, j'ai plus peur qu'il me rejette que la première fois. Peut-être parce que je sens, cette fois, le risque réel que je prends. Je crois qu'il veut repartir d'ici. Je me dis bêtement que c'est peut-être mon cul et mes seins qui le retiendront. De toute façon, s'il me rejette, ce ne sera pas pire entre nous que depuis qu'il est revenu de Paris. Alors ?
Ma chère Hélène, je suis comme le papillon qui s'est posé sur ta pierre rouge et qui est reparti en donnant l'impression de ne pas trop savoir où il allait. C'était toi qui me l'envoyais pour me dire de me laisser porter par le vent comme lui. Je me sens mal depuis que je suis revenu. Ça m'a fait un choc de voir Anna Nina avec ses cheveux bouclés. C'est rien, une broutille, un détail, mais ça m'a transpercé comme une épée. Comme si le temps de mon absence, elle était devenue une autre. Et puis ce lien entre elles. J'avais vraiment l'impression d'être de trop. Nani était heureuse de me revoir, elle l'a montré, je l'ai senti. Mais elle semblait si heureuse d'avoir passé ces quelques jours loin de moi. Leur complicité est palpable. Je n'en veux pas à Valentine, même si j'ai l'impression qu'elle me met devant le fait accompli depuis que je suis là. Et qu'elle fait tout pour que je ne parte pas. Mais rien pour me donner envie de rester. Sauf l'amour. Je sens la roulotte qui remue. Je crois que c'est elle. Peut-être pour ça. Tu m'en veux, Hélène, de coucher avec une autre femme. Et tu m'en veux d'y prendre du plaisir. Ça m'a tellement manqué, ça fait tant de bien. J'ai du mal à y renoncer. Aucune occasion ne s'était présentée depuis que tu n'es plus là. Jusqu'à ce hameau. J'en étais arrivé à ne plus ressentir le manque. Et elle me l'a à nouveau inoculé, comme un mauvais virus. Je te laisse. Elle arrive.
Il ne peut pas ignorer que je suis là, derrière la porte vitrée. Quiconque monte les trois marches fait vaciller la roulotte. Pourtant, il ne s'est pas retourné. Il est en train d'écrire dans un cahier. Je regarde son dos un peu courbé. Il n'est pas bien large, mais il a des bras très musclés, à force de tenir les chevaux pour conduire le véhicule. J'ai la main sur la poignée de la porte. Je tremble. Et s'il m'envoie balader ? Gaël me dirait que je suis débile de tendre le bâton pour me faire battre. Mais certains bâtons se tendent pour d'autres raisons, et j'ai bien envie d'essayer. Je ne frappe pas pour qu'il vienne m'ouvrir. J'ai conscience qu'il faut un certain toupet pour entrer ainsi dans son chez-lui, mais il sait que je suis là, et il reste immobile. Alors je suppose qu'il attend. C'est le bruit du loquet quand je referme la porte derrière moi qui lui fait poser son stylo et fermer le cahier en le repoussant sur un côté de la petite table ronde. Il s'est redressé sur sa chaise et regarde dans le vide. La lumière au-dessus du petit évier suffit à peine à éclairer la table, mais elle baigne le minuscule espace d'une lumière moelleuse. Je m'approche de lui, sans trop savoir comment l'aborder. J'espère avec force qu'il se retournera et qu'il prendra les choses en main. Mais rien. Alors je m'appuie contre la table, en lui faisant face, juste à côté de lui, et je pose ma main sur son épaule. Il regarde toujours dans le vide, sans aucune réaction à mon geste, tout en continuant de regarder droit devant lui. Je décide de ne rien faire. Je comprends dans les ombres de son visage, dans le tremblement de sa mâchoire, qu'il est sur le point de pleurer. Qu'il y a quelque chose de difficile qui se joue en lui en ce moment. Son cahier attire un instant son attention, puis il s'en détourne et fixe à nouveau un point derrière la vitre, dans la nuit noire. Je sens alors sa main sur ma cuisse, ferme et déterminée. Quelques instants plus tard, il m'allonge sur sa table. Dans mon dos, les miettes de pain de son dîner s'incrustent dans ma peau nue. Je veux plus que des miettes d'amour. Je veux un festin, une orgie, je veux l'ivresse. Je n'imagine même pas qu'il puisse repartir un jour. L'idée du vide est insoutenable.
Ça fait une heure qu'elle est partie. Je crois que je me suis assoupi. Ça me vide de faire l'amour. Et ça me remplit à la fois. Il y a une sorte d'extase que je ne trouve nulle part ailleurs dans ma vie. J'ose avec elle des choses que nous ne faisions pas, toi et moi, parce que nous étions jeunes, parce que ça ne s'est pas présenté, parce que nous nous aimions d'amour et que la simplicité nous suffisait pour être heureux. Avec Valentine, c'est différent. L'amour avec elle permet de compenser son caractère. Il faut transcender l'autre pour le supporter. Et puis, je ne réfléchis même pas. Elle crie d'envie avec son corps. Je ne fais que la suivre. Je te parle de cela alors que tu étais ma femme, alors que tu es morte. Serais-tu devenue ma meilleure amie, ma confidente? Est-ce que je deviens fou à parler ainsi à un cahier comme s'il était mon guide? Ce papillon, après s'être reposé sur ta photo, a fini par s'envoler vers d'autres horizons. Est-ce ce que je dois faire? Cesser de m'accrocher à ton fantôme et voler de mes propres ailes pour ne pas m'écraser au sol, comme le malabar rose de la gare de l'Est? Je pensais être à l'agonie, mais je bouge encore, et je me suis relevé. Enfin, je crois, pour notre fille, pas le choix. Maintenant, reste à savoir si j'ai encore envie de voler. Je crois que oui. Avec qui? Où? Comment? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai envie. C'est aussi toi qui nous as envoyé cet orage terrible.